Cette main verte, comment elle va pour cette nouvelle année, Alain
Baraton ?
Elle
va très très bien et elle vous souhaite à toutes et à tous plein de bonnes choses, le meilleur pour 2020. C'est un bonheur d'être avec vous, avec vous Patricia, avec vous Eric et puis avec tous ceux qui nous écoutent,
avec
bien sûr.
Avec les auditeurs, évidemment.
Bonne année, mon cher Alain.
Tous mes vœux.
On va commencer avec les conifères, Alain. Les conifères sont des arbres souvent symboles d'éternité.
Eh oui, ils le sont pratiquement tous, comme le thuya, autrefois appelé par les Indiens du Canada arbre de vie, eh bien pour son feuillage persistant, ou bien plus proche de nous, comme le cyprès ou l'if qui orne les cimetières ou le parvis des églises. Il existe aussi un conifère objet de la chronique ce matin qui orne le drapeau d'un pays dont il est l'emblème, un pays dont on parle beaucoup cette semaine.
Ouais, j'imagine que c'est le Liban, et donc avec le cèdre du Liban.
Eh oui, un conifère majestueux introduit en France en 1734 par le célèbre botaniste Bernard de Jussieu. Les deux premiers exemplaires ne provenaient pas du Liban, mais d'Angleterre, et il se dit que Jussieu les transporta sur le bateau dans son chapeau. Cela est inexact. Notre homme de science est tout simplement un maladroit qui fit tomber à quelques pas seulement du Jardin des Plantes les poteries contenant les jeunes arbres. Elles se brisèrent et il se servit alors de son couvre-chef pour les protéger et achever son périple. Le premier cèdre planté dans le jardin parisien vit toujours et sa santé est bonne, que dis-je, elle est même excellente.
Et pourquoi le cèdre est-il devenu l'emblème du Liban ?
Alors avant que les forêts de ce pays soient surexploitées, elles étaient plantées de cet arbre dont le bois était vénéré. Pardon, pas...
Vous allez prendre un petit café,
non,
je peux lui apporter un thé ou un café.
C'est que le problème de tout ne signifie pas mauvaise éducation pour autant. Petit problème de tout, c'est passager. Et c'est passé d'ailleurs.
On y va sur le cèdre du Liban.
Eh bien, c'était donc à l'origine, le Liban était planté de cet arbre dont le bois était vénéré, disais-je, par toutes les civilisations comme les Égyptiens, qui l'utilisaient pour construire leurs bateaux ou les cercueils, c'est pas très gai, et les Celtes, et c'est encore moins gai, qui employaient la résine pour embaumer le crâne des guerriers ennemis vaincus. Mais attention, cet honneur était uniquement réservé aux soldats qui s'étaient battus avec courage. En l'an 254, le père de l'église grecque Origène, un théologien philosophe, écrit, je cite, « Le cèdre ne pourrit pas. Faire de cèdre les poutres de nos maisons, c'est préserver l'âme de la corruption. » Alors, les forêts du Liban ont perdu de leur éclat, mais l'arbre reste le symbole du pays. En 1920, lors de la proclamation du Grand Liban, il est rédigé le texte suivant. Un cèdre toujours vert, c'est un peuple toujours jeune en dépit d'un passé cruel. Quoique opprimé, jamais conquis, le cèdre est un signe de ralliement. Par l'union, il brisera toutes les attaques. Il brisera toutes les attaques.
C'est d'actualité.
Ben oui, certains suivaient mon regard, l'espèrent aujourd'hui plus que jamais.
Alain Baraton, à présent vos conseils et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs de France Inter. On commence avec Mélanie qui vous demande, est-ce le bon moment, Alain, pour aller rempoter un oranger ?
C'est une question qui revient souvent. En général, oui, l'oranger est une plante magnifique qui est rentrée dans son repos végétatif, même si elle a gardé des feuilles, même si elle produit quelques fleurs, même si elle a même quelques petites oranges avec elle, enfin sur lui plutôt, devrais-je dire. Donc oui, il est parfaitement possible de rempoter un oranger. Mais attention, quand on a une plante en caisse comme un oranger, eh bien il ne peut pas produire des racines en même temps que des feuilles, des fleurs ou des fruits. Il faut choisir, ce qui veut dire que quand vous rempotez un oranger, on y va doucement, on ne maltraite pas la plante, on coupe simplement ce qu'il faut couper, à savoir quelques racines et uniquement la moitié, par exemple, du système racinaire, que je dis en périphérie, pas la moitié de toutes les racines, vous allez le faire mourir. Mais on y va doucement. Et s'il est dans un pot et non pas dans un bac, on le rempotera dans un pot à peine plus grand pour ne pas l'encourager à produire des racines au détriment des feuilles. Donc oui, on peut le faire maintenant, mais on y va doucement.
Un peu dans la lignée de cette première question, une autre de René Ehe qui vous demande, au moment de transplanter un arbuste, est-il préférable de le faire en motte ou plutôt avec des racines nues ?
J'aurais tendance à dire, tout dépend du volume du végétal. Quand on a affaire à une très vieille plante qui est en place depuis longtemps, oui, il faut le faire, c'est incontestable, en motte, on va augmenter les chances de survie, les chances de transplantation. Vous savez que transplanter une plante, c'est un peu comme pour vous, Eric, une transplantation cardiaque.
Évidemment. On peut voir ça comme ça, si vous voulez.
Une comparaison.
Ça me porte plutôt bien, docteur.
Oui, mais comme les plantes qui sont dans un jardin, qui se portent très bien, d'un seul coup, vous les transplantez ailleurs. D'ailleurs, si on emploie le terme de transplantation, ce n'est pas pour rien. Donc, c'est un risque que l'on fait prendre au végétal. Pour limiter les risques, il faut effectivement prendre de la terre autour des racines. Si l'arbuste est de belle taille et planté depuis longtemps, et on peut le faire à racines nues, à savoir sans centenaire si la plante est jeune ou alors qu'elle a été plantée il y a peu d'années.
Est-il encore temps, vous demande Vivien, de planter des tulipes et des narcisses?
Je serais tenté de dire oui, mais alors j'explique. En principe, non. Les tulipes, narcisses...
Attends, oui, en principe, non. Allez-y.
Oui, logiquement, c'est à les décembre dernier cara. Sauf que, admettons, vous soyez un petit peu tête en l'air, pas vous.
Admettons.
Je ne me permettrai pas. Mais admettons que, oh, dans votre garage ou dans votre buanderie, vous retrouvez quelques bulbes. Qu'allez-vous en faire? Les jeter? Avouez que ce serait quand même ballot.
Ça se garde.
Donc, si vous en avez encore quelques-unes, si vous les gardez, vous risquez fort que l'an prochain, elles soient déjà mortes, elles ne résisteront pas. 2 ans sans plantation. Donc, tant qu'à faire, plantez-les. On verra bien. Mais, logiquement, c'est pas après décembre.
J'adore ces ballots.
C'est oui, ballot. Oui, mais il y a des expressions comme ça que l'on n'emploie plus. Et je trouve ça un petit peu dommage.
Allez, on va terminer avec un dernier conseil de lecture ou de balade?
Ah, de lecture. L'herbier de Joséphine. Alors, je parle de la grande Joséphine. Joséphine de Beauharnais qui avait à la Malmaison des serres extraordinaires. L'herbier de Joséphine, c'est tout simplement un herbier qu'elle aurait pu se faire, bien qu'il soit fictif. Il est signé de Catherine de Bourgoin, grande spécialiste en la matière. Les planches sont des planches peintes par Redouté. Ce n'est pas rien. C'est publié chez Flammarion. Un très bel ouvrage. Voilà un joli cadeau de Noël à vous faire, Patricia.
Oui, c'est
29,90€, je donne le prix. 244 pages, un très très bel ouvrage.
Alain Baraton, merci et à demain matin.
À demain.